À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Bernard et Liliane, des invités que vous découvrirez tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité italienne. Alors, malheureusement, une actualité un peu triste, puisque le chanteur, auteur, compositeur, interprète Gian Maria Testa est décédé il y a quelques jours. C'était un grand chanteur italien, qui d'ailleurs a fait l'objet de plusieurs passages sur notre antenne, puisque sur l'antenne de Couleur FM, on a eu l'occasion de passer souvent ses chansons. Et aujourd'hui, il sera présent parmi nous par ses CD aussi, puisqu'il fera partie de toute la partie musicale de cette émission. Alors, lors de notre soirée chanson de femmes au mois de mars, la jeune chanteuse italienne Giu nous avait fait part de ses inquiétudes le concernant, puisque Giu et son compagnon Pier Mario Giovannone étaient des amis très proches de Gian Maria Testa, et elle nous avait manifesté son inquiétude sur effectivement son état de santé. Et quelques jours après, malheureusement, il est décédé, donc ses craintes étaient tout à fait fondées. Il est décédé le 30 mars à Castiglione Faletto, c'est un petit village perché sur une colline du Piémont. Alors Gian Maria Testa était assez jeune, il avait 58 ans, et c'était un fils d'agriculteur. Alors son rêve, c'était de devenir avocat, mais les études étaient longues, assez coûteuses, et puis finalement il a passé des concours dans la fonction publique et il a été chef de gare. Et il a été chef de gare jusqu'en 2007, c'est-à-dire que même lorsqu'il est commencé à être connu, il a tenu à conserver son poste de chef de gare. Et puis depuis 2007, ça devenait un peu plus dur parce qu'il faisait des tournées en Europe, en France très souvent, en Italie bien sûr, aux États-Unis. Voilà, alors très étrangement, même s'il a été découvert en Italie puisqu'il avait gagné le festival de Recanati en 1993 et 1994, qui est un festival réservé à la jeune chanson d'auteur, en fait, c'est une Française, Nicole Courtois-Higelin, qui la première lui a proposé d'enregistrer un album. Et donc, son premier album a été enregistré chez Label Bleu, qui était un label français. Et donc, en 95, il a fait ce premier album en France avant l'Italie. Et après, bon, il a enregistré effectivement plusieurs albums, que ce soit d'un côté des Alpes ou de l'autre. Et son premier album purement enregistré en Italie date de 2000. Il s'appelait Il Valzer di un giorno, la valse d'un jour. Et il l'avait enregistré précisément avec Pier Mario Giovannone, dont on parlait tout à l'heure. Gian Maria Testa était parfaitement bilingue, il connaissait le français sur le bout du doigt, mais il enregistrait quasi exclusivement en italien, sauf un des albums dont on parlera tout à l'heure, où il enregistrait dans les deux langues. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de lui ? Que ses textes sont tellement forts et beaux qu'ils sont même étudiés dans les lycées, voire à l'université. Et qu'en dehors de la chanson elle-même, et de la musique, puisqu'il a toujours été accompagné par de grands musiciens de jazz notamment, il avait aussi fait plusieurs apparitions, et notamment, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du théâtre, parce que c'était mise en scène, et il y avait de la chanson aussi, et notamment dans Don Quichotte et les Invincibles, d'ailleurs dans les locaux de Couleur FM, il y a une affiche de ce spectacle, qu'il avait fait avec Eri De Luca, qui est l'écrivain italien qui est très connu aussi en France, et de Gabriele Mirabassi, qui est un musicien de jazz. Alors ils étaient assis autour d'une table et ils devisaient, ils mangeaient en direct devant les spectateurs. Il devisait, il buvait aussi, et il parlait beaucoup de poésie et d'auteurs, de poètes du monde entier qui avaient écrit sur plusieurs thèmes, notamment de lutte ou autre. Et après, ils alternaient les chansons. C'est là qu'on a découvert d'ailleurs Kiri De Luca, qui est un écrivain, est aussi un bon chanteur. Voilà. Donc, un personnage très, très attachant et qui, je l'espère, continuera à être écouté par le biais des ondes. Alors, on va écouter un premier titre, ben, précisément extrait de son premier album, qui s'appelait Montgolfière. Le titre était d'ailleurs en français, l'album. Et on va écouter la chanson qui s'appelle Les Traiettorie delle Montgolfiere, c'est-à-dire les trajectoires des Montgolfières. Quelques mots de traduction. Elles laissent d'imperceptibles traces les trajectoires des Montgolfières. Elles nous semblent presque immobiles, pleines comme le ciel clair. Et l'homme qui les surveille ne sait plus maintenant si elles sont vraiment parties ou si elles ont toujours été là, comme ça, sans lien, colorées, immobiles. Même nous, du vent plein les yeux, avons suivi puis perdu les traces de leur vol dans les nuages de l'après-midi, dans les après-midi des villes. Mais qui sait où tout a commencé?
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è incominciato tutto, chissà, e chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo, anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tu. Tracce percettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Voilà, alors vous êtes bien sur Couleur FM 97.1. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités, M. Bernard Michou, qui est président de l'association Brang Village de littérature, et puis Liliane Duchet, qui est de la même association. Voilà, alors ce que je vais vous demander, c'est de nous présenter votre association, quand est-ce qu'elle est née, son objet, ce que vous faites. Alors, je ne sais pas, M. Michou, oui. Peut-être.
Alors, notre association a été créée en 1998, donc ça fait déjà un petit peu de temps. Et c'était une volonté de la communauté de communes de Morastel, parce que donc notre village, c'est Brang, qui fait partie de la communauté de communes de Morastel. Et dans un contrat de pays avec la région, on avait la possibilité de mettre en avant tous les hommes connus du canton de Morastel. Et bien sûr, on s'est retourné vers nous à Brang, parce que nous avons un château à Brang, qui a été acheté en 1927 par Paul Claudel. Et Paul Claudel a fait une carrière diplomatique dans le monde entier, en Chine, au Japon, au Brésil, aux États-Unis, enfin bon, dans énormément de pays. Et puis, bien sûr, c'est un écrivain qui est connu et qui est quand même très spécifique aussi. Mais pour nous, c'est un personnage important de notre village, parce qu'il habite déjà le château, et effectivement, il s'est fait enterrer dans sa propriété.
Absolument.
Oui. Alors donc, nous avons essayé de mettre en valeur ce personnage dans des locaux qui appartenaient à la commune de Brang. Donc, ce local est situé sur la place de Brang, où il y a la mairie, où il y a l'église. Enfin bon, c'est très facile à trouver. Et donc, nous avons voulu aussi parler de Stendhal, parce que Stendhal, bien qu'il ne soit jamais venu à Brang, mais il était grenoblois, bien sûr.
Bien sûr. Oui.
Et donc, il s'est servi d'un fait divers qui s'est passé à Brang pour écrire son roman Le Rouge et le Noir.
D'ailleurs, il y avait un... Le nom Michou était
oui,
dans le fait divers.
Alors, si je me souviens bien. Voilà. Voilà. Je ne peux pas prétendre d'être un descendant de Michou de la Tour, mais bon, on a sûrement un ancêtre commun avec Michou de la Tour.
Voilà. C'était l'affaire Berthet. Hein,
voilà, l'affaire Berthet. Et on voit dans ce roman que Stendhal s'est vraiment inspiré de ce fait divers, parce que le jeune Antoine Berthet, donc, a été guillotiné à Grenoble, sur la place. Qu'on est. Et donc, lui, sans venir à Brang, il a eu tous les comptes rendus de... Comment ?
Du procès.
Oui, du procès.
Procès,
voilà.
Les minutes.
Voilà, les minutes du procès. Mmh. Il s'est servi, en fin de compte, des minutes du procès. Bien sûr, il a changé les noms, il a changé les lieux, il a... Bon, et puis après, il a écrit son roman à sa façon de voir les choses.
Donc, deux auteurs, et vos projets tournent souvent autour donc, de Claudel et de Stendhal.
Uniquement hein, c'est ça. Une année Claudel et une année Stendhal.
Et chaque année, donc, vous avez une manifestation différente autour de ces deux auteurs. Donc, ce qui guide votre choix, on l'a compris, hein, Claudel, c'est parce que son appartenance propre à la commune, et puis Stendhal, parce qu'il s'est inspiré d'un fait divers. Dans le passé, les manifestations que vous avez organisées, elles tournent autour d'expositions, de lectures.
Auparavant, on s'occupe de... Enfin, personnellement, je m'occupe en tant que président de l'association depuis 5 ans. Et avant, au départ, c'était une exposition permanente sur Claudel et sur Stendhal.
D'accord.
Mais on s'est vite aperçu, on s'est aperçu que le public ne revenait pas. Revenait une fois, revenait avec des amis, quelquefois. Et donc, depuis 5 ans, donc, on a pris la décision de faire des expositions temporaires.
D'accord.
C'est-à-dire qu'une année Claudel, une année sur Stendhal, et puis de temps en temps aussi sur le village aussi. Donc, ce qui permet aux gens de revenir régulièrement dans notre espace d'exposition.
Et puis, ils peuvent en profiter pour aller... visiter la commune, j'imagine.
Oui, donc maintenant, aujourd'hui, on fait des visites de notre commune, où on explique l'affaire Berthet.
Mm-hmm.
Et puis, on attend une fois par an aussi, deux fois par an, une fois par notre association, la visite du château. Mm-hmm. Et puis, la visite du château se fait également pour les journées du patrimoine, où il y a un petit-fils à Paul Claudel qui fait visiter la propriété. Parce que d'accord. C'est encore une propriété privée qui appartient à la famille Claudel. Donc, M. Claudel est décédé en 1955. Et donc, il a encore des enfants qui sont encore... Il a eu 5 enfants, dont 2 qui sont encore vivants. Henri Claudel, qui a 103 ans.
Eh bien.
Et voilà. La dernière fois qu'il est venu à Brangues, il est venu pour fêter ses 100 ans. Et puis, la petite dernière, qui a 98 ans.
Jeannette.
Voilà. Alors, maintenant, on a affaire aux petits-enfants, qui ont autour de 60-70 ans.
D'accord.
Et ils sont quand même une vingtaine de petits-enfants. Donc, c'est assez compliqué, mais bon, on gère avec eux.
Et pour tout ce travail, vous êtes nombreux dans l'association, vous avez...
Non, on n'est pas très nombreux.
Les bénévoles sont durs à trouver.
Ah oui, sûrement.
Oui, disons qu'on est quand même 6 personnes vraiment à être impliquées
dans l'association.
Et
sinon, vous avez un fonctionnement d'adhésion
Oui, comme toutes les associations.
D'accord.
Voilà, et puis après, bon, on organise soit des concerts, soit aussi le marché du livre.
D'accord.
Là, à ce moment-là, on a besoin un peu plus de personnel. On a des gens de l'association qui se motivent pour ces jours-là, quoi.
Très bien. Et vos adhérents sont du canton de Morestel
Oui.
Enfin, la communauté de communes
Voilà, la communauté de communes, oui, principalement.
D'accord. Bien, on parlera après du sujet imminent, là, qui vous amène. Et puis, on va écouter un autre titre de Gian Maria Testa, donc, qui est extrait de son deuxième album, qui était Extramuros, et qui s'appelle ce titre La Casse la Colline, c'est-à-dire La Maison sur la Colline. Et là, on va l'entendre chanter dans sa langue piémontaise, puisque, comme dans beaucoup de régions d'Italie, la langue régionale est encore bien présente. Alors, elle est belle, la maison sur la colline. Marie à la regarde et me dit : Je ne pourrai jamais la voir. Pour les pauvres, il n'y a pas de paradis. Donc, Gian Maria Testa, La Casse la Colline.
La casse la colline, elle est belle. Marie à la garde, ben dise. En piaiserie, poudre et catella. Seria il me paradis. En piaiserie, poudre et catella. Seria il me paradis. Le bianche, la casa, la colina. Le bianche come un insel. Se la guardis mia cagrigna. Le propri la ca che vuol. Se la guardis mia cagrigna. Le propri la ca che vuol. Le propri la ca che vuol. Le propri la ca che vuol. Le grossa la gas la culina. Tante stanze con finestre e pugei. Stariu propri bin là en cima. Mi, me om e me fiei. Stariu propri bin là en cima. Mi, me om e me fiei. Me pare fazia un muradur.
le morte ancora sporche di causina, la falachiella ca slaculina, la fala per quattro signor, la falachiella ca slaculina, la fala per quattro signor. Vengo di sta, stanno mac due mesi per van via, la tengo mac basta casia, e mi son senza ca, la tengo mac basta casia, e mi son senza ca, e mi son senza ca, e mi son senza ca. Vacanza la culinga alle bella, Maria Lavarda pe dis, mi potrei mai catela, per i poveri ienen al paradis, mi potrei mai catela, per i poveri.
Voilà donc la maison sur la colline de Giammaria Testa, peut-être la colline d'ailleurs de Castiglionfalette, de ce village où habitait Giammaria Testa. Donc Monsieur Michou, vous nous parliez donc de cette association, de votre association à Brang. Bon, Brang, tout le monde, je pense. S'il y a un auditeur qui ne connaît pas Brang, peut-être vous pouvez le resituer. Bon, à deux pas de Morestel. Et...
Voilà, à deux pas de Morestel, donc en direction du Bugey.
Voilà.
En direction de l'Ain, quoi.
Et un très, très joli village.
Oui, un petit village. Voilà. Voilà.
Et l'association, vous avez un site, j'imagine?
Oui, bien sûr, on a un site, c'est www.claudel-stendhal.com.
Voilà.
Voilà, donc toutes nos manifestations sont répertoriées sur ce site.
Sur le site, ouais. Voilà, qui peut être mise à jour régulièrement, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors, la manifestation dont on va parler précisément, là, c'est une manifestation qui va durer du mois d'avril au mois d'août, c'est ça?
Oui, hein, fin d'août.
Donc, vous pouvez peut-être nous rappeler donc, le thème Stendhal et l'Italie, comment vous l'avez monté, comment vous avez choisi ce thème. Ouais. Les dates, les manifestations.
Alors, comme on disait, une fois nous traitons Claudel, une fois Stendhal. Donc, c'était l'année Stendhal. Nous voulions aborder Stendhal autrement que par le fait d'y faire d'Antoine Berthet. Et pour attirer aussi, disons, un public assez large, que ce soit pas trop didactique, parce que pour Stendhal, les spécialistes vont à Grenoble, ne viendront pas spécialement qu'à Brang. On a donc choisi une thématique, Stendhal et l'Italie, qui nous permettent d'aborder et la peinture et la musique,
et oui,
principalement, puisque pour Stendhal, je vais juste citer une phrase qu'il a écrite dans « Vie de Henri Brulard ». L'état habituel de ma vie a été celui d'amant malheureux, aimant la musique et la peinture, c'est-à-dire jouir des produits de ses arts et non les pratiquer gauchement.
Ouais.
Donc c'était bien son univers, hein, la découverte de l'Italie très jeune, puisqu'il suit les armées napoléoniennes, et il va être ébloui par, dès qu'il arrive, même avant Milan, dès qu'il passe en Italie, par les paysages, l'architecture et d'une part d'abord la musique avec la découverte de Cimarosa et ensuite
Rossini.
Ouais, ouais. Un peu plus tard. Rossini, il les découvre principalement en France, plus qu'en Italie. Mais surtout, la découverte des monuments italiens et tous les œuvres qui sont enfermées dans ces magnifiques bâtiments, les peintures murales, les tableaux, etc., toute cette richesse. Voilà. Donc, ça nous permet de parler, je dis bien, de la peinture. Donc, il a été... pourquoi aussi la peinture ? C'est qu'il a été chargé à un moment... par l'État de faire le répertoire des monuments en France, une sorte de conservateur. Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert un peu tout, plein de tableaux au Louvre, dans les différents musées français, plus cet enrichissement de découverte en Italie, ce qui fait qu'il va vouloir écrire une histoire de la peinture. Et il va parler surtout de la peinture de l'école de Florence, de Rome ensuite, en abordant tous les grands peintres italiens, Raphaël, Léonard de Vinci, Caravage, Courrèges. Et donc, nous, dans notre exposition, on essaye de mettre des... non pas des vrais tableaux, parce que malheureusement on n'a plus les
moyens, j'imagine.
Mais des reproductions de ces tableaux, donc à découvrir par ce biais. Voilà. D'accord. Et avec des citations de Stendhal dans ses différents livres qu'il a écrits sur l'Italie. Et d'autre part, la musique. Donc c'est vrai qu'il a été très ébloui par Cimarosa, cette découverte, la Scala de Milan, et l'opéra, justement, la voix chantée. Ce qu'il aimait énormément, c'était cette voix chantée. Et il écrira, justement, un livre sur Rossini,
l'histoire, la vie de Rossini.
La vie de Rossini, car il découvre, en fin de compte, Rossini à Paris. Lorsqu'il revient à Paris, il fréquente, justement, l'opéra, beaucoup de lieux culturels et de salons. Et c'est là qu'il va être très influencé par cette voix chantée et cette puissance de la voix chantée et de l'instrument. Donc, il a été baigné, je dirais, par tous ces arts, énormément influencé. Il a écrit aussi une histoire sur Mozart, sur Mestazas. Enfin, on sent que c'est quand même un homme qui aime les arts avec un grand A.
Alors, votre expo temporaire, là, permanente et temporaire, on peut dire à la fois, parce qu'elle est quand même temporaire, mais longue et sur plusieurs jours de la semaine aussi. Et donc, se déroule du 22...
Elle est déjà ouverte. Elle est ouverte
du 16 avril
du 16
au, 20, au 28 août, c'est ça ?
Voilà. Oui. Alors, au mois d'avril, mai, juin, uniquement sur les week-ends, puisque c'est les bénévoles qui assurent les permanences. Ensuite, juillet, août, ce sera ouvert tous les jours, sauf le lundi.
Le mardi.
Sauf le mardi, pardon. Et puis, en septembre, octobre, novembre, on passera à autre chose, à un autre domaine. Voilà.
D'accord. Et donc, il y a l'exposition elle-même. Là, vous l'avez réalisée avec... vous l'avez réalisée avec des... Vous avez pu avoir des appuis. Vous avez...
Alors,
pour la recherche des documents, pour...
Alors, lorsqu'on monte une exposition, on essaye d'avoir des collaborateurs qui connaissent le sujet. Et là, donc, automatiquement, on s'est adressé à Grenoble, au musée Stendhal de Grenoble. Monsieur Tomasini nous a donc dirigé à la bibliothèque de Grenoble qui détient tous les originaux, enfin, une grande partie des originaux des écrits de Stendhal. Et puis, on a rencontré aussi monsieur Le Bihan,
d'accord,
qui fait partie du centre de recherche sur Stendhal. Donc, la bibliothèque municipale de Grenoble nous a prêté beaucoup de documents qui sont dans nos vitrines ou sous cadre. Des documents aussi dont nous nous sommes servis pour rédiger nos panneaux explicatifs. Et M. Lubillan se proposera de venir faire une conférence justement sur l'amour de Stendhal pour l'Italie le vendredi 13 mai à Brangues. Donc nous aurons ici l'avis vraiment d'un grand spécialiste de Stendhal en général et là particulièrement sur l'Italie. À signaler que l'entrée est libre, hein, que aussi bien au musée qu'à notre conférence.
Et puis vous avez aussi d'autres... D'autres propositions hein,
alors, d'autres propositions. Voilà, il y aura un concert littéraire, un voyage musical de Stendhal. Alors, c'est en partenariat justement avec le château, hein, l'association du château, des Nouvelles Rencontres. Ça sera la compagnie Al Libitum avec Claire Delgado qui est soprano et Laurence Garcin au piano forte. Ça aura lieu dans la cour intérieure du château le samedi 4 juin à 18h.
D'accord. Voilà. Et vous proposez aussi un film.
Alors, bien entendu, on avait fait déjà cette expérience quand nous avions fait l'affaire Berthet, reprise l'affaire Berthet. On avait passé le vieux film sur le rouge et le noir, donc la... avec Gérard Philippe et ça avait eu un succès fou. Donc on a réussi avec des difficultés, mais on a réussi à avoir la possibilité de faire montrer La Chartreuse de Parme, première édition, avec Gérard Philippe et Madeleine Robinson. Voilà, ça aura lieu donc le vendredi 19 août à partir de 21h, puisque c'est du cinéma en plein air.
Place Claudel.
Et Place Claudel, voilà, en face du musée.
Ça me paraît bien, bien voilà. Intéressant, on y reviendra. On reviendra peut-être un peu après sur Stendhal et l'Italie, en rapport avec les femmes.
Les femmes,
peut-être. on va écouter un nouveau enregistrement une nouvelle chanson de Gian Maria Testa, dont je rappelle qu'il est décédé malheureusement le 30 mars. Et on va écouter une chanson de Léo Ferret, puisque c'est un album qui est dédié à Léo Ferret. Il avait fait cet album avec d'autres, avec des musiciens de jazz pour la plupart, puisqu'il était accompagné de Roberto Cipelli, de Paolo Fresu, le trompettiste sarde, Philippe Garcia et Attilio Zanchi. Et donc on va écouter Col Tempo, donc avec le temps, par Gian Maria Testa.
Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, e non ricordi più il viso, e non ricordi la voce, dentro un cuore che tace serve a niente cercare, e ti lascio partire, è molto meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro che tu adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un muover di ciglia, e fra le righe e le parole e sotto il fondotinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare.
le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Voilà, alors Stendhal et l'Italie, vous disiez d'ailleurs qu'il avait connu jeune l'Italie. Mmh. Et puisqu'il était né en 1783, je crois. Et il a rapidement, en fait, dans sa famille, il pensait que sa famille, une branche de sa famille, était d'origine italienne, d'ailleurs. Il le pensait, en tous les cas.
Il le pensait, oui.
C'était pas une certitude.
Du côté de sa mère, hein. Ouais. Mais je pense que cela vient surtout parce que sur mon amour pour l'Italie.
Voilà. Alors, il s'est un peu inventé peut-être une identité. C'est sa grand-tante, en fait, hein, Elisabeth Gagnon, qui lui aurait dit que sa famille, enfin au moins la partie Gagnon, était d'origine italienne. Et puis il avait un grand-père qui parlait couramment italien, donc il a fait ce rapprochement.
Exactement.
Et puis, alors on disait musique, bien sûr, peinture, beaucoup d'écrits sur les différentes villes, bon, d'abord Milan, tout tournait beaucoup autour de Milan au début. Et puis on ne peut pas oublier Stendhal et les femmes.
Stendhal et les femmes, oui. Et justement, la première rencontre amoureuse qu'il va faire, c'est lors de son premier voyage en 1818. Donc, vous voyez, il a tout juste une vingtaine d'années, où il va rencontrer une femme qui va lui ouvrir justement les salons italiens, et qui s'appelle Mathilde Visconti Dombrowski, qui sera vraiment un grand amour malheureux. Il l'approche, hein, c'est très platonique d'ailleurs. Mm-hmm. Hein, chez Stendhal, beaucoup de ses relations avec les femmes d'ailleurs sont plus platoniques que réelles. Et il l'approche comme ça, et il va être contraint d'ailleurs de rompre cette relation en 1821. Mais il en parlera énormément et fera beaucoup d'allusions aussi. Ensuite, il va rencontrer d'autres femmes, à Paris, hein, quand il revient sur Paris, toujours dans ses salons un peu, même italiens, hein, où il y a des Italiens qui fréquentent et où il y a des lectures, etc. Donc, il y aura Albert de Rubempré, Giulia Rinieri et tant d'autres. Ce sont des femmes qui lui ouvrent la culture ou des salons français, la culture française ou la culture italienne. C'est par les femmes, justement, qu'il va découvrir tout cela. Les trois quarts du temps, disons que c'est lui qui est amoureux et non pas du tout la femme. Il sera même à un moment, il essayera d'approcher la femme de son cousin Daru, notamment. Mmh, mmh. Et il sera y conduit, bien entendu, au bout de quelque temps. Donc c'est aussi des amours un petit peu malheureuses de la part de Stendhal. Mais cela va lui faire produire, au niveau de ses écrits, peut-être les plus beaux, l'inspiration. Mmh. Et notamment cette Chartreuse de Parme qu'il va écrire en s'inspirant totalement et des lieux.
De Milan,
et,
c'est
voilà,
ça,
Milan, l'âme de Cône, etc. Mmh. Le nord de l'Italie. Et des femmes qu'il a rencontrées, puisqu'il va justement transposer, comme il avait fait un peu pour Le Rouge et le Noir, transposer dans son roman des personnages qu'il a vraiment rencontrés. Mmh.
Ouais. Il a beaucoup écrit aussi sur la condition des femmes au moment de, en Italie, bah, quand il y était. Hein, et j'avais exhumé un bouquin là-dessus. Et il avait beaucoup écrit hein, sur la condition des femmes, ce qu'il pensait des femmes, estimant que les femmes italiennes avaient une sorte de supériorité, entre guillemets, avec aussi les femmes espagnoles. Enfin, et puis leur influence dans la vie.
Ben, c'est vrai, parce que Stendhal fréquentait les femmes de salon, voilà, de la haute bourgeoisie. Aussi, voilà. Donc, des femmes émancipées et qui étaient, je dirais, un peu comme autrefois les femmes qui aborder le roi et conseiller les rois. Absolument. C'était des femmes lettrées et qui avaient quand même beaucoup d'influence, justement. Et pour Stendhal, c'est une façon de découvrir toute la littérature, la philosophie. Donc, il trouve ces femmes beaucoup plus indépendantes, et notamment en Italie, hein, que le milieu qu'il fréquentait de sa famille ou au-delà à Grenoble, où la femme était au service de l'homme, même si la révolution était passée, même si c'était encore un milieu très où l'influence religieuse et les coutumes avaient malgré tout encore beaucoup d'influence. Donc, en Italie, il y a plus ce côté libertin dans le milieu qu'il fréquente quand même.
Voilà, c'est important de le dire.
Voilà.
Vous avez prévu quelque chose, je crois, dans l'expo sur le Stendhal et les femmes.
Alors, ça sera plutôt Monsieur Le Bihan
qui va en parler.
Qui va en parler, voilà, dans sa conférence.
Qui est, vous le rappelez, était au mois de mai.
Le 13 mai. Voilà.
Voilà, on va écouter. Alors, dans notre émission, dans nos émissions cette année, en fin d'émission, souvent on passe, enfin les derniers moments d'émission, des collectages que l'on a fait sur l'immigration italienne dans le. C'est le voyage à l'envers, là, c'est l'immigration italienne dans le Nord-Isère. Là, comme on a décidé de dédier toute la partie sonore musicale à Gian Maria Testa, on va passer en fait des titres liés à l'immigration, puisque l'immigration italienne dans le monde, et maintenant l'Italie est devenue un pays qui avait été un pays d'immigration, est devenu un pays d'immigration, et il a beaucoup écrit là-dessus. Il avait fait un album entier qui s'appelait Da questa parte del mare, de ce côté de la mer, où voyant l'arrivée massive de gens en Italie, bah évidemment, ils ne pouvaient faire que le rapprochement avec l'exode important qu'il y avait eu des Italiens dans le monde. Alors, on va écouter le premier titre qu'on va écouter, enfin, le titre qu'on va écouter s'appelle Rital, tout simplement. Hein, et donc, Laurent va nous le caler, donc Rital par Gian Maria Testa.
Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. E
sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa è un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane, e l'onta del rifiuto. Lo sapevamo anche noi, questo guardare noi.
Rital, pardon, de Gian Maria Testa, qui disait notamment « Pourtant, nous le savions-nous aussi, l'odeur des soutes, la mer du départ, nous le savions-nous aussi, une langue à désapprendre, une autre à apprendre vite, avant la bicyclette. » Et c'était un titre qu'il avait dédié à Jean-Claude Izzo, qui était un écrivain français connu. Voilà, alors, on va peut-être résumer un peu tout ce qu'on a dit au niveau de votre exposition, des différentes manifestations, des contacts. De votre site.
Oui, je vais vous rappeler donc Brangues, c'est un petit village charmant qui est pas très loin de Bourgoin, donc 25 km, c'est pas très loin. Et puis maintenant, on va faire un peu publicité pour une chose qui est la véloroute. La véloroute, donc, qui doit relier Genève, quoi, le lac Léman, à la mer. Et donc, cette véloroute passe à Brangues et à Morestel. Alors, l'événement va commencer à partir du 12 juin. Elle va être mise en service. Donc, on vous invite aussi, pour ceux qui sont sportifs et puis pour ceux qui le sont le moins aussi, parce que c'est une promenade.
C'est bien agréable,
le long du Rhône. Donc, on est en limite de l'Isère et de l'Ain. C'est le Rhône qui nous sépare, qui sépare ces deux départements. Donc, avec un très joli pont qui s'appelle le pont de Grolet. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et puis, toute la partie du Bugey, qui est aussi très, très belle. Voilà.
Pour rien vous cacher, l'activité bicyclette a souvent été consacrée à cette région.
Ah oui, bien sûr. Mais si vous êtes cycliste, oui.
Modeste.
Voilà.
Voilà. Donc, on rappelle donc l'exposition, les dates.
Alors, c'est moi qui la rappelle. Donc, l'exposition qui vient de commencer, mais au mois d'avril, mai, juin, c'est que les samedis et les dimanches.
Voilà.
Hein, le matin de 10h15 à 12h et de 14h à 18h.
D'accord.
Et ça, c'est tenu par les bénévoles. Et juillet, août, en principe, on a un étudiant qui est payé par la communauté de communes, qui vient donc tout le mois de juillet et le mois d'août. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, bien sûr. Et de 10h15 à 12h et de 15h à 19h.
Et puis, vous nous rappelez, madame, les différentes manifestations
peut-être. Oui, je vais redire
le site,
www.claudel-stendhal.com. Voilà.
Et donc, à Brangues, outre le fait, même si vous voulez venir en voiture, à pied, à vélo, à cheval.
Et pourquoi pas
pour voir cette exposition consacrée à l'Italie, hein, Stendhal et l'Italie, qui a lieu donc tous ces mois d'été. Vous pourrez aussi venir pour le vendredi 13 mai à une conférence par un spécialiste de Stendhal et de l'Italie, Amour de Stendhal pour l'Italie, faite par Monsieur Le Billan de Grenoble, président de l'association de Stendhal de Grenoble. Et un concert, on vous propose aussi, donc au mois de juin, un concert littéraire. C'est un voyage musical de Stendhal qui sera présenté par la compagnie Ad Libitum avec Claire Delgado-Bosch en soprano et Laurence Garcin au pianoforte. Ça se passera dans la cour intérieure du château de Brangues, le château de Paul Claudel. Et ensuite, au mois d'août, un film en plein air, La Chartreuse de Parme, avec de Christian Jacques, avec Gérard Philippe et Madeleine Robinson. Voilà, à 21h en soirée.
Ben donc on sera tous sur Henri Bell et l'Italie, en fait,
voilà,
Stendhal.
Stendhal, oui, Henri Bell, quoi qu'il a eu beaucoup plus de noms.
Non, oui. Et Stendhal, oui, oui, puisqu'il écrivait même sous des pseudonymes. Hein,
voilà,
fois, hein.
Si vous venez justement au musée, en montant les marches pour... passez à l'étage, vous aurez tous les noms de Stendhal sur nos marches.
Voilà. Stendhal étant emprunté un nom d'une ville allemande.
Voilà, exactement.
Voilà. Bien, ben merci. Alors, puisqu'on est dans le Nord-Isère, on va aussi signaler la quinzaine du cinéma italien entre avril et mai qui va se dérouler et qui a commencé d'ailleurs au Méga Royal de Bourgoin-Jallieu. Et donc il y a plusieurs films de prévus: Mia Madre de Nanni Moretti, Vierge sous serment de Laura Bispuri, qui est un film italo-albanais, et puis Les équilibristes d'Ivano De Matteo, et puis Par amour de Giuseppe Gaudino. Tout ça se déroule, donc les deux premiers, Mia Madre et Vierge sous serment, dans la semaine qui a déjà commencé, mais qui est du 20 au 26 avril, du 27 avril au 3 mai, les deux autres, Les équilibristes d'Ivan De Matteo et de Par amour de Giuseppe Gaudino, sachant que les horaires de diffusion sont en général mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et avec, suivant le cas, des projections 16h45 à 19h30, mais je vous donnerai les coordonnées et le site où vous pourrez voir le détail. Et ensuite, vous aurez un film qui est très connu, puisqu'il était réalisé en 1949, les autres étant très récents. Et ce sera la soirée de clôture qui se déroulera le mardi 3 mai à 19h30, Le voleur de bicyclette, de Vittorio De Sica, et qui sera, la projection sera suivie d'un pot convivial aux couleurs de l'Italie. Voilà. Oh. Et tous les films sont en version originale sous-titrée. Hein. Et un sera en français, d'ailleurs, c'est Les équilibristes de mémoire. Les cinémas hors-piste, donc, est une association, elle aussi, hein, qui fait des choses bien intéressantes. Alors, vous pourrez avoir des informations 04 74 97 53 41. Et puis, vous pourrez aussi éventuellement contacter par mail cette association à CHP, Cinéma Orpiste, donc, .bourgoin, B-O-U-R-G-O-I-N, c'est tout, @gmail.com. Je répète, CHP.bourgoin@gmail.com. Programmation est bien intéressante, voilà. Donc, mais il me reste, avant de passer un dernier morceau, à vous remercier, Liliane et Bernard, pour votre participation, et puis tout ce que vous nous avez exposé. Et puis je conseille à tous les gens du Nord-Isère de se rendre à Brangues et d'aller voir cette exposition et d'en profiter pour découvrir, si ce n'est déjà fait, votre belle commune. Merci beaucoup. Et
nous,
puis
merci.
On va finir avec un dernier titre de Gian Maria Testa, toujours extrait de l'album qu'il avait consacré donc à l'immigration. On va écouter Miniera. Alors Miniera est en fait une reprise d'un album, d'une chanson qui avait été réalisée justement, qui traitait de l'émigration italienne au Mexique, et de Bixio et Cherubini. Miniera, donc Miniera, la mine, tout simplement.
Allorché in ogni bettola messicana ballano tutti al suono dell'Havaiana,
prendi lontano un canto così accorato. E il minatore bruno laggiù è emigrato. La sua canzone è il canto di un esiliato. Cielo di stelle, cielo color del mare. Tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia. Portale un cuor che muore di nostalgia. Nella miniera è tutto un bagliur di fiamme. Piangono bimbi, spose, sorelle e mamme. Ma un tratto il minatore dal volto bruno dice agli accorsi se titubante ognuno: io solo andrò laggiù che non ho nessuno. E nella notte un grido solleva i cuori. Mamme son salvi, tornano i minatori. Manca soltanto quello dal volto bruno. Ma per salvare lui c'è nessuno. Cielo di stelle, cielo color del mare. Tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia. Portale un cuor che muore di nostalgia.
À l'écoute de l'Italie. Une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan. Mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.